Bonjour, c'est Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. La lettre d'Amérique fait une pause en fin d'année. On se retrouve très vite début janvier pour des lettres inédites. En attendant, je vous propose cette semaine un best-of ou une compilation de plusieurs lettres consacrées à une ville que vous connaissez. Si vous n'y êtes pas allé, vous l'avez découverte à travers des films, des séries ou à travers la littérature. Je veux bien sûr parler de l'électrique ville de New York. Hi everyone. Je vous écris depuis le bureau de RTL à New York, à Manhattan, pas très loin de Times Square, au 25e étage d'un immeuble qui en compte 26. Rien d'exceptionnel à New York, surtout à Manhattan. Mais personnellement, je n'ai jamais habité aussi haut quand j'étais en France. C'est une expérience, ça fait un peu bizarre au début, d'autant qu'à un endroit de l'appartement, la baie vitrée va jusqu'au sol, donc on est vraiment face au vide. Et tout le monde n'aime pas. Alors le gros avantage d'être au 25e étage, c'est la vue. Pas une journée sans que je prenne quelques secondes pour l'admirer. D'ici, je vois 4 des 10 plus grandes tours de Manhattan, la deuxième, troisième, quatrième et la dixième par ordre de hauteur. Je mettrai des photos sur mon compte Twitter pour que vous puissiez vous en apercevoir et surtout pour que vous puissiez suivre cette lettre. Alors je ne vois pas la plus grande, la One World Trade Center, je vais vous y emmener dans 2 minutes, mais je vois la deuxième plus haute, là je ne peux pas la louper parce qu'elle est vraiment juste en face de mon bureau, elle s'appelle la Central Park Tower, elle fait 472 mètres, elle est assez neuve, elle n'est pas à visiter, c'est un immeuble d'habitation, je viens de regarder sur le site internet, il y a encore quelques appartements à vendre si vous êtes intéressé, au troisième étage par exemple, un three bed, c'est-à-dire un trois chambres, l'équivalent de nos quatre pièces avec trois salles de bain, 8 millions et demi de dollars. Alors avant de signer, attention aux charges, hein, 3 000 dollars de charges communes et 5 600 dollars de taxes locales. Juste à côté, une tour pas très connue, la 111 West. Elle porte tout simplement le nom de son adresse dans Midtown. Elle est toute fine par rapport à la Central Park Tower. Et il n'y a pas que la hauteur qui donne le vertige. Les prix aussi, de 8 millions et demi de dollars à 66 millions de dollars pour le dernier étage. Alors, je ne vais pas rester à ma fenêtre pour vous parler de tous ces gratte-ciel. Je vais vous emmener au pied ou en haut de 4 buildings. Il a fallu faire un choix. On pourrait passer des heures à en parler. Mais j'ai donc choisi de vous parler du One World Trade Center, le plus haut, donc l'Empire State Building, mythique, la One Vanderbilt, un des nouveaux gratte-ciel de New York. Et puis on terminera par le chouchou de beaucoup de monde, le Chrysler Building. Allez, c'est parti. Voilà, je me trouve à présent au pied du One World Trade Center, aussi surnommé la Freedom Tower, ou tout simplement la One, la plus haute tour de New York, donc, et des États-Unis. Et puisqu'on est dans la partie des records, la flèche à son sommet est la plus grande du monde. Elle fait 124 mètres. Tour de la Liberté, bien évidemment, par rapport aux attentats du 11 septembre 2001. C'est un site, globalement, qui reste émouvant. Il n'y a pas que cette tour, hein. Il y a aussi un musée, un mémorial, tout un parcours pour se rappeler de ce qui s'est passé le 11 septembre. Au mois de septembre prochain, ça fera donc 20 ans. Tout le monde, en tout cas tous ceux qui sont suffisamment âgés, se souviennent de ce moment-là. Personnellement, j'étais aux États-Unis, mais en vacances, côte ouest. Je faisais un road trip et je me trouvais à San Francisco. Le matin du 11 septembre, on a vu la ville se recroqueviller car il y avait des craintes, des rumeurs comme quoi d'autres avions allaient s'abattre sur les principales villes américaines et notamment les villes de la côte ouest, Los Angeles et San Francisco. Il n'y avait pas grand-chose à faire à part regarder, sidérer les événements à la télévision et revoir ces images hallucinantes de ces tours qui s'effondrent. Et 10 ans plus tard, j'étais cette fois à New York, ici, pour travailler pour M6, pour les 10 ans des attentats. Et je me souviens que de mon hôtel, qui est juste à ma gauche, là d'ailleurs, bah, de mon hôtel, je voyais cette tour en construction, la One World Trade Center. Elle n'était pas encore terminée. Et le dernier morceau de la flèche a été installé le 10 mai 2013. 541 mètres, donc 1776 pieds. Alors si je vous donne la taille en pied, c'est pas pour faire un effet de manche, un effet américain, mais c'est parce que le nombre est un symbole, 1776, bien évidemment, comme la date de la déclaration d'indépendance américaine. La tour qui fait donc partie d'un ensemble, je vous le disais, hein, d'un lieu de mémoire. En elle-même, elle abrite des bureaux. Elle est en verre, une tour scintillante. Et plus elle se lève, plus elle se rétrécit. Les bases ont été consolidées, encore plus qu'une tour classique, on va dire, en cas de nouvelle attaque terroriste, notamment, pour éviter que la tour ne s'effondre et sa structure est censée résister à un camion piégé. Alors, au début de la construction, il y a eu d'ailleurs une cérémonie dans un parc pas très loin, une cérémonie au cours de laquelle le public était invité à signer et à mettre quelques mots sur une poutre. Et ça a été d'ailleurs symboliquement la première poutre installée pour la construction de la tour. Alors, je reviens à des choses plus légère, plus touristique, on va dire. Tout en haut, vous avez un observatoire. J'y étais il y a quelques minutes. Alors c'est pas mal, on est à 382 mètres et on a vraiment une vision panoramique de New York. Ce qui est assez impressionnant aussi, c'est quand vous montez avec les ascenseurs, ça va très vite et vous n'avez pas du tout l'impression de grimper plus de 100 étages. C'est très bien fait. Et puis de là-haut, évidemment, il faut choisir son jour, hein. Il vaut mieux qu'il fasse beau. Alors, je râlais un tout petit peu au début en me disant qu'il devrait prévoir un système pour qu'on puisse se repérer, pour voir quelles tours sont précisément à quel endroit. Et je râlais pour rien, enfin je râlais tout seul, hein. Mais il y a effectivement un iPad, c'est une option. C'est une option, évidemment, il y a des options pour se prendre en photo, pour avoir l'iPad. Mais l'iPad est assez utile parce que ça vous donne vraiment des bons repères. Vous savez vraiment où est le New Jersey, où est Staten Island, comment s'appelle ce pont, ça vaut le coup si jamais vous y allez. La One a donc dépassé en hauteur le mythique Empire State Building grâce à la flèche dont je vous parlais tout à l'heure. Bah, l'Empire State Building, c'est d'ailleurs là où je vais me rendre tout de suite pour vous continuer cette lettre d'Amérique. Là, je suis dans le sud, pratiquement tout au sud de Manhattan. L'Empire est au centre. Je pourrais y aller à pied, mais ça demande presque 1 heure, même si la balade est loin d'être désagréable. Mais pour aujourd'hui, je vais plutôt prendre le métro. Et voilà, me voici à présent au pied de l'Empire State Building. Alors c'est un bâtiment qu'il vaut mieux voir de loin. Je ne dis pas qu'il est moche, hein, loin de là. Ce que je veux dire, c'est que quand on est au pied de l'Empire, il n'y a pas beaucoup de recul, donc c'est compliqué de se rendre compte, du gigantisme du bâtiment. Alors, on s'en aperçoit, hein, quand on lève la tête, mais il vaut mieux avoir du recul. Donc, c'est vraiment un bâtiment iconique, mais dont on s'aperçoit de la démesure à plusieurs centaines de mètres, voire à plusieurs kilomètres. Pendant longtemps, ça a donc été le bâtiment le plus haut de New York, avec 443 mètres avec la flèche. Et là aussi, vous avez un observatoire. En haut, un observatoire assez impressionnant. Là, on est au centre de Manhattan, dans le quartier de Midtown, c'est-à-dire le centre-ville. C'est une construction art déco. Le nom vient de l'État de New York, puisque vous savez qu'il y a la ville de New York, New York City, et l'État de New York, qui s'appelle l'Empire State, d'où l'Empire State Building. L'État de New York, qui est très étendu, hein, puisqu'il remonte jusqu'à la frontière canadienne. Par exemple, les chutes du Niagara, c'est l'État de New York. On peut visiter d'ailleurs côté canadien et côté américain. Les chutes du Niagara, c'est un peu plus impressionnant côté canadien. Alors, je reviens sur l'Empire State Building. Il est aussi assez impressionnant la nuit, car il change d'éclairage en fonction des événements. Alors, moi, j'ai la chance de le voir depuis ma chambre. Et au début, je me percevais bien qu'il changeait de couleur, mais je ne connaissais pas ces codes couleurs. Donc, vous avez un code couleur pour la Saint-Valentin, pour Halloween, pour le marathon de New York. Pendant un moment, il y avait un cœur rouge qui battait pour rendre hommage à tout le personnel soignant qui se battait pour lutter contre le coronavirus. Vous avez par exemple, pour Noël, il est vert et rouge, couleur sapin, couleur Noël en fait, hein, le sapin vert et le Père Noël rouge. Donc voilà, il y a tout un baromètre. Pendant l'US Open, il est jaune pour les balles jaunes. Vous avez aussi le 14 juillet. Et bien, le 14 juillet, l'Empire State Building est en bleu, blanc, rouge. C'est un hommage à la France, un hommage à la fête nationale. Qu'est-ce que vous avez encore? Ben, pour les élections. Le jour des élections, il est rouge et bleu. Rouge et bleu, c'est les couleurs des républicains et des démocrates. Il devient rouge si les républicains gagnent et bleu si ce sont les démocrates qui gagnent. Alors, c'est un édifice très solide, bien évidemment, puisqu'il a quand même supporté King Kong à son haut. C'est bien évidemment une image forte du cinéma, de la culture populaire et de la culture cinématographique américaine, avec King Kong qui s'accroche à la flèche de l'Empire State Building pour échapper aux avions. Et puis il y a cette photo célèbre aussi, hein, puisqu'on parle de culture populaire, cette photo lors de la construction, où on voit des ouvriers qu'on appelait les Skyboys, des ouvriers qui prenaient leur pause déjeuner sur une poutre qui est dans le vide, et on les voit tout sourire. La photo est assez impressionnante. Elle est réelle, hein, mais en fait, elle a été un peu mise en scène, c'est-à-dire que le photographe ne l'a pas pris non plus sur le vif. Il a demandé à ce que les ouvriers soient sur cette poutre, et donc ils posaient en quelque sorte. Alors l'immeuble a été construit en pleine crise économique, en pleine dépression, juste après la crise de 1929. Évidemment, ce n'était pas l'idéal pour rentabiliser les bureaux à l'époque, puisque l'Empire est essentiellement constitué de bureaux. Parmi les nombreuses histoires liées au bâtiment, vous savez peut-être qu'un avion s'est encastré, s'est écrasé dans le gratte-ciel. C'était un bombardier en juillet 1945. Le lieutenant-colonel Smith devait poser son avion, son bombardier à l'aéroport de Newark. Il y avait énormément de brouillard ce jour-là. Les contrôleurs ont hésité à le dérouter ou pas. Finalement, il n'y avait plus de visuel. Il aurait évité le Rockefeller Center de... le visuel, il aurait évité la tour Rockefeller de quelque peu, mais pas l'Empire. Et les 10 tonnes du B-25 sont encastrées au niveau du 79e étage. Les réservoirs ont explosé, il y a eu un énorme, gigantesque incendie. Le pilote et les deux membres d'équipage sont morts, ainsi que 8 personnes qui étaient dans les bureaux, mais les fondations de l'immeuble ont tenu et il a pu être réparé. L'Empire State Building, c'est évidemment un des incontournables de New York, c'est un symbole, c'est aussi quelque chose qu'il faut absolument visiter si vous êtes là, absolument, à moins que vous ayez le vertige, c'est pas forcément évident. Là, il n'y a pas grand monde, je suis juste devant. D'habitude, il y a des dizaines, voire des centaines de personnes qui sont sur le trottoir et qui attendent patiemment avant d'entrer, même s'il neige, même s'il fait très très chaud. Et en ce moment, il n'y a quasiment personne, puisque pas beaucoup de touristes, seulement des touristes américains, et les New-Yorkais, pour la plupart, ont déjà visité l'immeuble. Alors, on va faire une dernière pause. Là, je me trouve au niveau de la 34e rue, et je vais remonter toujours vers le nord de Manhattan, pas très loin, au niveau de la 42e rue, à 8 blocs, comme on dit ici, comme disent les Américains, pour vous présenter les deux derniers immeubles de cette lettre d'Amérique, de cette sélection. Bon, ben finalement, ça a été plus rapide que prévu, puisque j'ai remonté un petit peu la 34e rue, j'ai tourné à gauche sur Madison, et puis on voit assez vite la One Vanderbilt, la dernière née des grandes tours new-yorkaises. Je me suis arrêté un petit peu avant, car c'est plus facile de décrire, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on est au pied, on n'a pas forcément le meilleur angle de vue. Alors la One Vanderbilt, elle est un peu comme la World Trade Center, c'est une tour en mode transparent. C'est plutôt la mode, la tendance en tout cas dans les nouvelles tours, c'est de jouer la transparence. Elle est de plus en plus effilée, plus on monte également. Et puis en haut, il y a comme trois petites tours qui donnent son aspect assez original. On est toujours dans le centre de New York. Elle se trouve exactement... elle colle pratiquement la gare centrale, Grand Central, qui est la magnifique gare de New York, qui méritera sans doute un podcast ces prochaines semaines ou ces prochains mois. Il n'y a pas beaucoup d'activité dans cette tour pour l'instant, puisqu'elle a été inaugurée en septembre 2020, en pleine pandémie. La TD Bank, qui est une des grandes banques new-yorkaises américaines, va occuper pas mal d'étages. Ce sont 58 étages de bureaux. Alors je vous en parle parce que c'est l'une des dernières tours de New York. Et puis il y aura une vue assez incroyable de là-haut, mais aussi des animations. Alors les promoteurs parlent plutôt d'une expérience plus que d'un observatoire, parce qu'il y aura des animations artistiques, des expériences sensorielles. En fait, les promoteurs veulent se démarquer par rapport aux autres observatoires, aux autres points de vue. C'est vrai que c'est compliqué de rivaliser avec l'Empire State Building ou le Rockefeller, par exemple. Alors, j'ai eu la chance de visiter ce que ça va être en avant-première il y a quelques jours. C'est toujours en chantier. Alors, pas trop le droit de révéler beaucoup de choses, mais ça s'annonce très intéressant. En tout cas, c'était passionnant et ça m'intrigue de voir ce que ça va devenir quand ce sera terminé. L'ouverture au public, c'est à partir du mois d'octobre prochain. Donc, si vous venez à New York, je pense qu'il y aura des annonces prochainement pour que les touristes étrangers puissent venir. Ça se trouve, d'ailleurs, les annonces auront été données au moment où vous écoutez le podcast, parce que les Américains peuvent venir maintenant en Europe. Je les vois mal ne pas donner une réciprocité, mais avec sans doute quelques restrictions comme des tests PCR. Bref, on verra. Si vous venez, si vous revenez à New York, vous avez déjà visité l'Empire State Building, ou la Tour de la Liberté ou le Rockefeller, eh bien voilà une nouvelle activité dans votre programme. Et puis du haut de ce futur observatoire de One Vanderbilt, même si on ne parle pas encore d'observatoire, on verra quel nom ils en donnent, mais on a une vue plongeante, vraiment magnifique sur la Chrysler, le Chrysler Building, qui est que l'on voit d'ailleurs quand on est au pied de la Vanderbilt. C'est peut-être le bâtiment le plus séduisant, le plus charmant. En tout cas, il tient beaucoup aux Américains et aux New-Yorkais. Dans les classements, il est régulièrement en tête. Il est quand vous regardez la tour Vanderbilt ou la gare de Grande Centrale, elle est à l'est, le Chrysler Building. Voilà, je ne pouvais pas terminer le podcast sans en donner un mot. Il est sorti du top 10 des bâtiments les plus hauts de Manhattan. Ça a été la deuxième plus haute structure au monde dans les années 30 après la tour Eiffel, avant la construction de l'Empire State Building. Alors là aussi, on est dans le style art déco, et ce qui fait son charme, c'est notamment sa flèche et le haut du Chrysler Building, avec comme des arcs de cercle qui deviennent de plus en plus petits et qui donnent l'originalité vraiment et le charme de cet immeuble. Ça donne une impression de plusieurs soleils, et c'est assurément l'un des symboles de New York. Bienvenue à Central Park, donc l'un des parcs les plus mythiques au monde. Les New-Yorkais diront le plus beau, c'est peut-être pas faux d'ailleurs, le plus représenté en tout cas au cinéma. Personne n'a visité New York sans avoir fait un tour à Central Park. 37 millions de visiteurs les années pleines. Et il y aurait de quoi envoyer plusieurs lettres d'Américains sur Central Park, ce serait peut-être le cas d'ailleurs. Mais puisqu'il faut définir un angle, comme on dit dans le journalisme, j'ai décidé de me focaliser sur une zone de Central Park, une balade en gros d'un quart d'heure avec des endroits symboliques. Donc je me trouve au milieu du parc, exactement au niveau du château du Belvédère. C'est un château néo-gothique, une réplique d'un château écossais. C'est très beau, c'est un endroit assez magique. On peut le visiter bien sûr, mais c'est tout petit, surtout une boutique de souvenirs maintenant. Un petit château construit sur ce qu'on appelle Vista Rock. C'est le deuxième plus haut point de vue du parc après Summit Rock, qui est un peu plus à l'ouest sur la gauche. Quand on regarde le parc vers le nord, comme je le fais en ce moment. Et en face de moi, le réservoir, la célèbre étendue d'eau de Central Park, qui sera notre point d'arrivée. Tout à l'heure, là je ne vois pas vraiment le réservoir parce qu'il est caché par une rangée d'arbres. C'est d'ailleurs une des caractéristiques de Central Park, ça a été voulu d'ailleurs par les architectes, c'est de ne pas avoir une vue très étendue pour donner l'impression, pas qu'une impression d'ailleurs, de découvrir plein de petits endroits comme ça. En contrebas d'où je me trouve, c'est-à-dire du château du Belvédère, il y a Turtle Pond qu'on peut traduire par l'étang aux tortues, la mare aux tortues. Il y a plusieurs espèces de tortues dans cet étang, notamment la plus répandue, apparemment, les tortues à oreilles rouges. Un peu sur la gauche, le jardin de Shakespeare, qui est un endroit assez à l'écart aussi, assez préservé, sauvage. Le jardin a été baptisé ainsi en 1916 pour marquer le 300e anniversaire de la mort du dramaturge anglais. Et suivant la tradition des autres jardins, parce qu'il y a plusieurs jardins qui s'appellent Shakespeare dans le monde, ce sont des plantes ou des fleurs qui ont été mentionnées dans ses œuvres qui figurent dans ce jardin. Un endroit assez prisé des amoureux, notamment pour les photos de mariage. D'ailleurs, il y a une statue de Roméo et Juliette, pas très loin. Elle borde un théâtre en plein air qui est assez joli, qui lui aussi est juste en face de moi. Tout ça, c'est tout à côté. Le théâtre est au bord de l'étang des tortues.
Quand vous êtes assis sur les gradins, d'ailleurs, vous voyez le château du Belvédère. Ce théâtre appartient à la ville de New York. Il s'appelle le Théâtre de la Corte et il accueille notamment chaque été le New York Shakespeare Festival. Et il y a toute une série d'œuvres, de pièces qui sont jouées. C'est le principe, il doit y avoir au moins une œuvre de Shakespeare pendant le festival. C'est gratuit, mais il faut arriver tôt pour avoir des places. Alors, en vous parlant, j'ai quitté le très beau château du Belvédère, qui veut d'ailleurs dire point de vue en italien. Belvédère, j'ai appris ça, je ne savais pas du tout. Je descends en côté est, sur la droite. Donc, pour vous situer, je suis au niveau de la 80e rue. Central Park commence à la 59e au sud, jusqu'à la 110e rue au nord. 4 km de long et 800 mètres de large. En gros, si je sortais du parc à ce niveau, côté est, j'arriverais pas loin de la librairie francophone qui est connue par tous les Français de New York. Elle s'appelle Albertine. Une très jolie librairie. C'est vrai, quand on est expatrié, on aime bien passer du temps dans ce genre d'endroit. Le consulat français qui n'est pas très loin non plus. Alors, sur le chemin, des gens qui se demandent déjà ce que je fais à parler tout seul dans un micro, mais ça, c'est pas très grave. Je suis sur la ceinture goudronnée en fait qui fait le tour du parc sur un peu moins de 10 km. Beaucoup de cyclistes, de joggeurs, des calèches aussi. Sur la gauche, sur ma gauche, un obélisque qui ressemble un peu à l'obélisque de la Concorde, mais celui-ci est à New York. Il est appelé l'aiguille de Cléopâtre. Il était installé ici en 1880. Il vient d'Alexandrie, en Égypte, et sa réplique parfaite est à Londres, alors que l'obélisque de la Concorde vient de Louxor. L'obélisque parisien, qui est un peu plus haut puisqu'il fait 23 mètres, et celui-ci, au pied duquel je me trouve, fait 21 mètres et pèse 200 tonnes quand même. Il y a des hiéroglyphes inscrits dessus. C'est vrai que cet obélisque à Central Park n'est pas très connu, beaucoup moins que celui de Paris, par exemple. L'obélisque qui est au bord de ce que l'on appelle Great Lawn, c'est-à-dire la Grande Pelouse, c'est une vaste étendue où les New-Yorkais viennent pique-niquer dès qu'il fait beau. Alors aujourd'hui, il fait un petit peu plus frais, mais le week-end dernier, c'était vraiment la grosse affluence, même assez compliqué de trouver une place. Et quand cet hiver, les restaurants étaient fermés, beaucoup de New-Yorkais venaient aussi se donner rendez-vous ici avec leurs gants, leurs bonnets, leurs écharpes. Mais c'était une façon de se rencontrer. Les parents aussi viennent ici pour les fêtes d'anniversaire de leurs enfants, comme un peu partout dans Central Park d'ailleurs. Alors sur Great Lawn, il y a aussi des terrains pour jouer au softball. Le softball étant un dérivé du baseball, qui est parfois appelé le hardball. Sinon, le principe est un peu le même. Il faut avancer de base en base, mais la balle est lancée différemment, c'est-à-dire par en dessous, et elle est un peu plus grande. Au softball, le terrain est également plus petit. D'ailleurs, c'est souvent pratiqué par les plus jeunes. Vous avez peut-être entendu un changement dans le son, c'est que je suis en train de passer sous un pont. C'est l'une des caractéristiques de Central Park, c'est qu'il y a énormément de ponts et d'arches. Il y en a exactement 36. Alors juste en face de moi, j'arrive maintenant devant un incontournable de Central Park, un incontournable de New York d'ailleurs, le Met, le musée, le Metropolitan, plus de 2 millions de pièces, 7 400 000 visiteurs en 2019, pour prendre une année complète puisque l'année 2020 bien sûr était une année tronquée. Pour le Louvre en 2019, c'était 9 600 000 visiteurs. L'une des caractéristiques de Central Park, là je suis en train de passer devant une série de bancs, ce sont ces fameux bancs verts. Et il y en a 10 000. Et on peut, vous savez, peut-être adopter un banc. Au dernier comptage, 7 000 auraient été jusqu'à présent adoptés. Alors, adopter un banc, en fait, c'est le nom d'un programme. Un programme qui vous permet d'inscrire un mot sur une plaque de cuivre, essentiellement pour quelqu'un que vous aimez ou des personnes disparues. Alors il y a tout un tas de messages, hein, finalement. Il y en a des milliers pour des disparus du 11 septembre, par exemple, ou des couples qui se sont rencontrés à Manhattan. Vous pouvez passer plusieurs heures. C'est quand on commence, c'est assez fascinant de lire tous ces messages. Là, j'en ai un juste en face de moi, par exemple. Amy qui dit les plus beaux moments de ma vie, je les ai passés à Central Park. Là, j'en découvre en même temps que vous. Là, c'est Jackie et Julian qui ont mis une plaque pour leurs amis, qui ont mis une plaque pour leur 50e anniversaire de mariage. Là, une place de rêve de la part de Jody et Steve. Donc voilà, des milliers de messages. Alors, c'est un budget hein, tout de même, puisqu'il faut payer 10 000 dollars le droit d'inscription pour mettre donc un message sur l'un de ces bancs verts. La condition, c'est qu'il n'y ait pas de message d'insulte, bien évidemment, ni de publicité. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais on pouvait aussi faire ça à une époque au Jardin des Plantes à Paris. C'était une idée du comité féminin pour la conservation de Central Park à la fin des années 80. L'idée, assez bonne, hein, même si effectivement c'est très cher, c'était de pouvoir récolter des fonds pour réaménager le parc qui était devenu dangereux, car il y avait beaucoup de criminalité à l'époque. Une des affaires, d'ailleurs, une des affaires criminelles les plus marquantes, les plus frappantes de New York a eu lieu ici à Central Park. C'était en 1989. Elle a fait l'objet d'une série d'ailleurs sur Netflix, une série assez. Ils étaient pas très loin. Leurs aveux avaient été recueillis par la police sous la contrainte et finalement, en 2002, le véritable meurtrier avait avoué et les cinq adolescents qui avaient eu des peines de prison finalement ont été relaxés mais ont passé beaucoup d'années et ont eu leur vie, beaucoup d'années en prison et ont vu leur vie bien sûr totalement bouleversée. Aujourd'hui, même si il y a toujours évidemment quelques agressions, des problèmes, mais le parc est beaucoup plus sûr. Alors, voilà, je fais attention parce que là, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire que j'ai traversé la route, même s'il n'y a pas de voiture, sans trop faire attention, et il y a des cyclistes qui vont assez vite et qui ne sont pas contents quand quelqu'un comme moi, et ils ont raison, leur traverse juste devant la roue. Alors, je reviens sur notre petit parcours, puisque j'arrive à ma destination au final pour aujourd'hui, en tout cas, savoir le réservoir, ce magnifique plan d'eau un peu en hauteur qui offre une vue assez incroyable sur les buildings de Manhattan, côté ouest, Upper West Side, donc, et côté est, Upper East Side. Ce réservoir qui, à l'époque, approvisionnait les New-Yorkais en eau. On estime que la ville de New York actuellement pourrait le vider en une seule journée. Et en 1993, le réservoir a officiellement cessé d'être une source d'eau. Alors la période est assez sympa hein, pour se balader et découvrir Central Park, puisqu'il y a les fleurs qui commencent à éclore et beaucoup notamment de cerisiers. Les cerisiers de Central Park sont assez célèbres avec leur belle couleur mauve. Alors le réservoir. J'y arrive, je suis en train de monter quelques petites marches puisque, je vous le disais, il est légèrement en hauteur. Il s'appelle aussi le réservoir Jacqueline Kennedy au nazis, la femme de JFK qui a habité tout près d'ici. Alors beaucoup de films y ont été tournés hein, car la vue est assez incroyable, le plus célèbre étant bien sûr Marathon Man. Avec Dustin Hoffman, c'est un polar, mais dans le film, Dustin Hoffman s'entraîne pour courir un marathon, donc on le voit souvent ici, et il y a beaucoup de scènes, notamment la scène d'ouverture où on le voit courir autour du réservoir, un réservoir qui fait 2,5 km de circonférence. C'est un endroit, quand on aime courir, c'est vrai que Central Park, c'est un must. Alors certains font juste quelques centaines de mètres, marchent au bord du réservoir pour apprécier la vue et l'étendue d'eau. D'autres, effectivement, s'entraînent, courent autour. Chacun fait un petit peu à son rythme et c'est vrai que c'est une très belle balade, notamment au lever ou au coucher du soleil. Il y a une lumière qui est absolument fabuleuse ici. Je vous écris cette lettre au-dessus de l'eau, donc sur un pont, l'un des ponts les plus célèbres des États-Unis, avec le Golden Gate de San Francisco par exemple. Je suis sur le Brooklyn Bridge. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, nous sommes dimanche après-midi. C'est l'un des lieux de balade préférés des New-Yorkais, alors plus exactement des touristes américains et étrangers, puisque les New-Yorkais le connaissent, ce pont, et puis ils ne l'empruntent pas spécialement car il y a beaucoup de monde. C'est pas forcément facile de circuler à pied. Là, j'ai eu un peu de mal pour trouver un endroit d'ailleurs pour m'installer, pour enregistrer, car c'est assez étroit. Et il y a en plus des vendeurs ambulants. Vous pouvez acheter des photos, des souvenirs, des bouteilles d'eau, puisqu'il fait assez chaud aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion de venir à New York au mois de septembre, c'est vraiment la saison idéale. Il fait beau, mais ce n'est pas non plus caniculaire. C'est le mois parfait pour visiter. On va donc parler aujourd'hui des ponts de New York, en tout cas des principaux, puisqu'il y en a près de 2000 répertoriés. Alors, 2000, c'est les ponts et les tunnels, ainsi que les petits ponts. Là, on va surtout parler des principaux. Ça fait quelques semaines que je projetais d'y consacrer une lettre d'Amérique. Et puis, il y a quelques jours, en revenant d'un dîner à Brooklyn, j'ai pris un bateau pour rentrer sur Manhattan. Vous pouvez, évidemment, il y a le métro, mais vous pouvez aussi prendre le bateau. C'est un tout petit peu plus cher, mais c'est tout à fait abordable. Il faisait nuit et je suis passé sous ce pont de Brooklyn. Et c'était absolument magnifique. Le pont en lui-même est magnifique. La vue sur Manhattan l'est tout autant. Et je me suis dit, c'était un signe que j'allais en faire la prochaine lettre d'Amérique. Et pour ce faire, donc, je me suis installé sur le pont de Brooklyn. Alors, je ne vais pas évoquer uniquement celui-ci, mais c'est le plus emblématique de New York, celui que l'on voit le plus dans les images qui représentent la ville. C'est l'un des symboles, hein, avec la Statue de la Liberté ou le Chrysler Building, par exemple. C'est surtout le plus agréable en mode piéton. Il est sur deux niveaux, donc. Un niveau piéton et un niveau pour les véhicules. Juste à côté de moi, vous les entendez peut-être, et c'est pour ça que c'est l'un des plus agréables, puisqu'on peut se promener à pied ou à vélo sans que les voitures vous frôlent, ce qui n'est pas le cas de tous les ponts de New York. Alors, ses caractéristiques, 84 mètres de haut et 1,8 km de longueur, ce qui fait une bonne balade. Et c'est donc l'un des ponts qui relie Manhattan à Brooklyn. Il a été inauguré en mai 1883. Alors, c'est toujours assez fascinant, je trouve, ce type de construction. C'est fascinant, quand on n'y connaît rien, de se dire que bah, ça puisse tenir comme ça, avec tout le poids qu'il supporte, qu'il a fallu des trésors d'imagination et de technique pour que ce soit consolidé, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas les mêmes connaissances techniques. La construction du pont de Brooklyn a d'ailleurs fait l'objet d'un documentaire de Ken Burns. Alors, c'est l'un des plus grands documentaristes américains. Je vous en avais parlé dans une lettre d'Amérique consacrée à la musique country, puisqu'il y avait consacré un documentaire. Il est aussi célèbre pour une série très bien faite et assez impressionnante sur la guerre du Vietnam en 10 épisodes. Les travaux ont duré 14 ans et on estime que près de 30 personnes ont perdu la vie pendant ces travaux. On l'oublie souvent, mais toutes les grandes réalisations ont été coûteuses en vie humaine, bien évidemment pas seulement aux États-Unis. Et dans un autre registre, le pont de San Francisco, dont je vous parlais à l'instant, a un triste record, être le monument au monde où l'on se suicide le plus, près de 2000 suicides depuis sa construction. Alors, je referme cette parenthèse pas très joyeuse. Pour revenir au pont de Brooklyn, son édification est une histoire familiale. Le concepteur s'appelait John August Roebling. Il est mort du tétanos. Son fils l'a remplacé, mais lui a été victime d'un accident de sous-marin. En fait, on utilise toujours des sous-marins de poche pour travailler sur les fondations. Mais le fils Roebling a été victime d'un accident de décompression. À l'époque, les remontées par palier n'étaient pas bien respectées, tout simplement parce qu'on ne mesurait pas le danger. Il est resté paralysé et c'est sa femme, la belle-fille du concepteur, donc Emily Warren Roebling, qui a supervisé la suite des travaux. Et c'est même elle qui a traversé en premier le pont le jour de son inauguration. Alors, quand le pont a été construit, Manhattan et Brooklyn étaient en fait des villes distinctes. Brooklyn n'a été intégré à la ville de New York qu'à la fin du 19e siècle. L'intérêt de la balade sur le pont de Brooklyn, c'est la récompense une fois que vous avez traversé les 1825 mètres, à savoir la vue sur Manhattan. Vous avez toute la skyline et évidemment, c'est très très beau. que ce soit de jour ou de nuit, c'est peut-être un peu plus impressionnant même de nuit. L'idéal, ce que vous conseillent les guides, c'est assez logique en fait, c'est de faire votre balade à la fin de la journée pour que vous puissiez commencer le jour, la fin d'après-midi, et puis que vous ayez le coucher du soleil. Le Brooklyn Bridge a été de nombreuses fois représenté, bien sûr, dans les films, même Godzilla s'y est emmêlé dans les câbles. Il est représenté aussi en peinture et même en jeu vidéo. En dessous du pont, côté Brooklyn, vous avez un quartier très sympa pour passer quelques heures ou pour y habiter, mais c'est assez cher. C'est le quartier de Dumbo. Rien à voir avec l'éléphant, bien sûr. C'est en fait un acronyme pour Down Under the Manhattan Bridge Overpass. On pourrait traduire par en dessous du viaduc de Manhattan Bridge, car tout près du pont de Brooklyn, vous avez le Manhattan Bridge. Quand vous êtes face à Manhattan, il est à droite. Il ne faut pas oublier que Manhattan est une île, enfin plus précisément une presqu'île, et qui a eu besoin au fil de son évolution de plusieurs ponts pour gérer tout simplement son activité et pour que la circulation puisse se faire. Le Manhattan Bridge a été inauguré une trentaine d'années après le Brooklyn Bridge. Il est un peu plus long, 2 km, un peu plus haut, 100 mètres. Lui aussi est sur 2 niveaux. Il est un peu moins connu, moins fréquenté que son voisin, car le niveau piétonnier est partagé avec le métro, et forcément c'est moins agréable. Lui aussi, avec ses grands câbles et ses grandes arches, peut ressembler au pont de Brooklyn, même s'il est un peu moins joli, un peu moins authentique. Alors, je ne l'ai pas encore dit, mais il enjambe lui aussi East River, tout comme le troisième grand pont du coin, toujours quand vous allez un peu plus sur votre droite et que vous regardez Manhattan, c'est-à-dire le pont de Williamsburg. C'est le nom d'un quartier de Brooklyn, un des quartiers également très sympa, très vivant, prisé par beaucoup de jeunes et aussi par pas mal de Français. La balade vaut le coup parce que le pont relie 2 quartiers intéressants, Williamsburg côté Brooklyn donc, et on arrive pas très loin de Little Italy côté Manhattan. Alors c'est vrai que si vous venez à New York pour la première fois et que vous êtes pressé par le temps parce qu'il y a des dizaines de choses à faire, autant privilégier le pont de Brooklyn. Mais celui de Williamsburg vaut le détour car la vue est tout aussi belle et puis il y a moins de monde. Les 3 ponts dont je viens vous parler, en tout cas, font partie de ceux qui sont classés monuments historiques. En tout, il y en a 10 qui ont cette distinction à New York. Et près de, je vous le disais tout à l'heure, 2000 ponts et tunnels ont été recensés dans la ville. Un chiffre assez incroyable. La plupart, alors ce sont des petits ponts hein, ou des petits tunnels, mais c'est dire l'importance de ces constructions dans le développement de la ville. Le pont de Brooklyn, celui de Williamsburg et le Washington Bridge, ainsi que le pont Verrazzano, ont tous été, au moment de leur inauguration, les ponts suspendus les plus longs au monde, avant que les records soient successivement battus. Donc. Alors, le pont Verrazzano, justement, c'est l'un des ponts dont je voulais vous parler, car il relie, lui, Brooklyn à Staten Island. C'est du pied de ce pont à Staten Island que les coureurs du marathon New York partent au petit matin tous les ans. Je vous en profite pour signaler que je proposerai un podcast sur ce marathon mythique dans quelques semaines, puisque il aura bien lieu cette année après son annulation en raison du Covid, bien sûr. Et il y a beaucoup de choses à raconter sur ce marathon. Revenons au pont Verrazzano. Il tient son nom de l'explorateur italien Giovanni Verrazzano. C'est le premier à avoir posé le pied à l'endroit de ce qui allait devenir New York. Il l'avait baptisé à l'époque la Nouvelle Angoulême. Alors, je m'arrête un peu sur ce point car je l'avais évoqué dans un précédent podcast et j'avais reçu des mails en me disant, mais n'importe quoi, c'était pas la Nouvelle Angoulême, mais la Nouvelle Amsterdam. Oui, mais non. Alors, c'est vrai que le nom de Nouvelle Amsterdam après la colonisation hollandaise est plus connu, mais auparavant, à la base, cet endroit s'appelait bien la baie d'Angoulême, tout simplement parce que l'explorateur italien avait été mandaté par la France pour explorer de nouvelles terres, de nouveaux passages. Et avant Henry Hudson, qui a donné son nom au fleuve Hudson, ainsi qu'à la baie d'Hudson d'ailleurs, eh bien, en 1924, Verrazzano découvre ce qu'allait devenir la baie de New York et il l'appelle la baie d'Angoulême parce qu'il avait été envoyé par le roi de France, François François Ier. Et François Ier était duc d'Angoulême. Il y a une statue dans le sud de Manhattan qui le prouve avec cette inscription Angoulême. Et juste après l'enregistrement, je vais y passer. C'est pas très loin. Je mettrai la photo sur mon compte Twitter. Alors bon, si j'insiste un peu sur cette histoire, c'est parce que je suis natif d'Angoulême et bien sûr, ça m'amuse de me dire que j'habite désormais à New York et que tout début, ça s'appelait La Nouvelle Angoulême. J'en profite pour dire bonjour à tous les Charentais et ainsi qu'à ma famille. Revenons à nos ponts. Une fois que vous avez évoqué les principaux, c'est compliqué de faire une sélection. Je pourrais parler par exemple du Queensboro Bridge, qui est le pont avec le plus de trafic routier dans un autre style. On pourrait parler des petits ponts, notamment à Central Park, qui font le charme de ce parc et de New York aussi. Vous avez notamment le Bow Bridge, qui est très beau, très romantique. Il y a aussi le Hell Gate Bridge, qui a un nom pas très accueillant, puisque ça signifie le pont de la porte de l'enfer. Lui aussi est au-dessus de d'East River. C'est un pont ferroviaire qui a été repeint en rouge et qui a notamment inspiré le Harbour Bridge à Sydney. Vous l'avez sans doute vu puisqu'on le voit souvent en photo. Il jouxte l'opéra de Sydney. Et puisqu'il faut choisir, eh bien, je vais terminer par le Washington Bridge, le George Washington Bridge, parce qu'il est très impressionnant. Pour vous le situer, là, il faut remonter vers Manhattan. Par l'ouest, donc par l'Hudson. Cette fois, il relie le quartier de Washington Heights à New York à la ville de Fort Lee dans le New Jersey. Il est impressionnant notamment en raison de sa hauteur, 184 mètres. Je m'y suis promené l'hiver dernier. C'était une journée où il avait neigé. Je voulais avoir un point de vue sur Manhattan, un peu éloigné. Alors, je ne vous le conseille pas forcément parce que c'est déjà un peu loin. J'étais quasiment seul sur ce pont car l'espace piéton est assez étroit et les voitures vous frôlent à toute allure. Bref, ce n'est pas la balade la plus sympathique, mais avec ces deux tours, le pont est assez reconnaissable. C'est un des ponts emblématiques aussi de New York. Il est indispensable pour l'organisation du trafic. Là aussi, il est sur deux niveaux, quatre voies à double sens sur le niveau le plus élevé et trois voies à double sens sur l'autre. Quand on fait les calculs, ça vous fait un total assez impressionnant de 14 voies. Alors, il faut être concentré pour l'emprunter. Il y a quelques semaines, pour tout vous dire, je revenais du New Jersey pour un reportage pour RTL suite aux intempéries qui ont frappé New York et le New Jersey. J'ai loupé la sortie, du coup, j'étais obligé de revenir dans le New Jersey et accessoirement de payer un péage car le pont est payant, il faut repasser à la caisse et vous donner à chaque fois 16 $, je crois. Voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter, comme d'habitude en musique. Alors là, j'ai pas eu à chercher très loin. Je me suis rappelé ce morceau d'une bande originale que j'écoutais beaucoup au moment de sa sortie, celle du film Les Chansons d'amour, un film de Christophe Honoré avec Louis Garrel et Ludivine Sagnier notamment, et la musique d'Alex Baupin. L'un des morceaux s'appelle Brooklyn Bridge. Thank you and goodbye.
Paris paraît déjà si loin, Paris paraît petit, nous serons mieux, nous serons bien, noyés dans la city. Qu'importe qu'il pleuve sur Kennedy Airport. J'ai peur pendant l'atterrissage, mais tu me tiens la main. Alors comme un garçon bien sage, je pleurerai dans mon coin. Le ridicule si tu m'escortes sur le pont de Brooklyn, ma petite amoureuse.
Vous venez d'écouter Une lettre d'Amérique. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur rtl.fr, sur l'application RTL et sur vos plateformes habituelles.